Santé.
C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro pour ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Même si l'on connaît de plus en plus les bienfaits de l'activité physique sur notre santé, on penche souvent, je pense qu'il faut se l'avouer, bien souvent pour la plupart d'entre nous, vers la sédentarité. Et à titre de preuve, 48 % des Québécois de 12 ans et plus ne sont pas suffisamment actifs durant leurs loisirs. Et pourtant, les experts s'entendent hein, que pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique 5 jours par semaine, c'est un objectif à cibler, souhaitable, afin d'améliorer notre qualité de vie, notre santé. C'est sûr que c'est le plaisir qui doit primer avant tout, je pense, et par la suite, l'activité physique, ça doit s'insérer facilement, aisément dans notre routine, dans notre quotidien. Le plan d'action régional Montréal physiquement active et l'initiative Montréal bouge tentent, bon, à leur façon, ces deux programmes-là tentent de mettre en place des environnements favorables à l'activité physique et de créer des rencontres pour inviter les Montréalais à devenir ou à demeurer physiquement actifs. Et j'en parle en deuxième partie d'émission avec Jean-François Pinsonneau de la Ville de Montréal et Claudine Labelle, fondatrice et présidente de Filles Actives. Et puis, d'abord, parler. Faire des liens, apprendre, se déplacer. Toutes ces actions-là que l'on fait tous les jours sont intimement liées à notre mémoire. La mémoire, c'est une faculté que l'on a tous. Bon, parfois, certains sont meilleurs que d'autres. C'est une faculté aussi qui est utile à notre quotidien, à la fois insaisissable et que l'on a très peur de perdre, surtout en vieillissant. Comment notre mémoire fonctionne-t-elle et quelles stratégies, oui, on peut développer, utiliser pour garder notre mémoire en santé. J'en parle à l'instant avec Dr. Véronique Bobotte, neuroscientifique, chercheuse à l'Institut Douglas et professeure agrégée à l'Université McGill et à l'Institut de recherche Douglas. Dr. Bobotte, bonjour.
Oui, bonjour.
Dans votre laboratoire, vous vous intéressez particulièrement aux liens entre la mémoire, le mouvement, les déplacements. Bien sûr, c'est super intéressant, très spécifique, mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on fait appel, qu'on utilise notre mémoire.
Donc d'abord, il y a plusieurs différents types de mémoire. Hein. On peut parler en général de la mémoire en étant une capacité, par exemple, d'encoder de l'information, de la stocker, d'être capable de la ressortir, mais il peut y avoir de différentes façons. Et par exemple, quand on a appris un instrument de musique et qu'on le fait plus automatiquement après avoir eu des heures d'entraînement, ça découle quand même d'un certain type d'apprentissage et de la mémoire. Et ça, ce serait de la mémoire plus procédurale, donc des habiletés, des habitudes. Mais je pense que quand on parle de mémoire dans la vie de tous les jours, souvent on fait référence à plutôt un type de mémoire qui s'appelle une mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements qui se passent dans notre vie. Est-ce que c'est bien ça ce que vous me demandez?
Oui, bien sûr. Et ça me fait penser, cette question-là, souvent quand on se demande, bon, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 semaines? Bon, on s'en rappelle pas, mais quand c'est associé à des événements très émotifs, là, à ce moment-là, on s'en rappelle. Est-ce que c'est un peu ça, la mémoire épisodique?
Alors, en fait, la mémoire épisodique met en lien beaucoup d'aspects différents. Ça va mettre en lien l'endroit où on a encodé cette mémoire, donc ça va être la mémoire spatiale. Donc, dans cet environnement-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'étais à tel endroit au dernier jour de l'an. Là-bas, il y avait des personnes en particulier, il y avait certains amis que j'avais pas vus depuis longtemps, il y avait des discussions que j'ai eues avec certaines personnes, il y avait de la nourriture, il y avait des odeurs, et bien oui, il y aurait pu y avoir des émotions. Donc, les émotions, c'est une des composantes de ce qui forme une mémoire épisodique.
Donc, il y a beaucoup de composantes dans notre mémoire et plusieurs types de mémoire, à ce que j'entends bien.
Absolument. Mmh. Et d'ailleurs, il faut le mentionner parce que les différents types de mémoire dépendent de différentes parties du cerveau. Et c'est là ma spécialisation, en fait. J'ai passé les derniers beaucoup d'années de ma vie.
On s'en rappelle plus combien d'années.
À essayer de dissocier ces types de mémoires qui dépendent de différentes parties du cerveau. Parce que, justement, j'étais intéressée de voir mais comment est-ce que ça se préserve avec les années, au cours de la vie, et si on peut même, après ça, prédire des risques de maladies neurologiques et psychiatriques à cause de du fait qu'on exerce plus ou moins certains types de mémoire. Donc, ça va très spécifique. Voilà, donc je pense résumer en survol comme ça.
Oui, et justement, parlons-en de ces parties du cerveau qui sont reliées au fonctionnement de la mémoire. Quelles sont ces parties-là?
Oui, donc il y a deux parties en particulier qui sont vraiment importantes. Il y a l'hippocampe, qui est une partie du cerveau qui est à peu près au niveau de l'oreille. C'est dans le lobe temporal médian. Et c'est la partie du cerveau qui va se dégrader avec la maladie de l'Alzheimer. Vous savez, quand les personnes sont atteintes de la maladie de l'Alzheimer, d'abord, on retrouve justement des pertes de mémoire, dont des pertes de mémoire spatiale en particulier. Les gens vont se perdre plus souvent, vont oublier des événements importants. Donc, il y aura des caractéristiques comme ça. Alors qu'il y a une autre partie qui est importante aussi pour la mémoire qu'on peut utiliser, qui va plus être impliquée dans la mémoire procédurale, le développement des habitudes, et ce sont les noyaux codés. Et comme de fait, les noyaux codés font partie d'un amalgame de structures qui sont impliquées dans la maladie du Parkinson. Donc, c'est un peu pour ça que... Vous voyez, donc quand on voit des personnes atteintes de la maladie du Parkinson, ils vont avoir des mouvements moins fluides, mais aussi un langage moins fluide. Donc, il y aura moins d'automatisme, moins d'habiletés qui vont ressortir comme avant facilement.
Donc, ce n'est pas la même région du cerveau qui est atteinte?
Pas du tout, exactement.
Et lorsque l'on parle d'Alzheimer, c'est l'hippocampe qui serait atteint. Est-ce qu'on pourrait déterminer, est-ce que l'on sait si ça serait possible de prévenir par l'étude de cette partie du cerveau?
Voilà, donc en fait, ce que beaucoup d'études ont démontré, c'est qu'une atrophie de l'hippocampe est un facteur de risque important à la maladie de l'Alzheimer. Il y a d'autres études plus sophistiquées qui ont montré qu'il y a aussi des régions connexes à l'hippocampe qui se nomment cortex entorhinal. Donc, c'est une région associée. Donc, ces deux régions-là sont vraiment importantes et se dégradent très tôt. Alors, ce qu'on trouve, c'est que, pas nous dans notre laboratoire, mais d'autres grands laboratoires qui ont suivi des patients pendant des années, ils ont vu que ceux qui étaient encore en bonne santé, mais qui avaient un hippocampe plus atrophié, étaient ceux qui, plus tard, des années plus tard, vont avoir la maladie de l'Alzheimer.
Ils vont développer cette maladie.
Voilà. Donc, dans ce sens, c'est important de garder son hippocampe en bonne santé, d'avoir un volume qui représente le fait que cette partie du cerveau est bien utilisée.
Mais ça, on fait ça comment, Dr Bobotte?
Bon, ben voilà. Donc, voilà la grande question. Et c'est sur ça que je me spécialise, justement, parce que j'ai fait attention, comme je mentionnais plus tôt, de dissocier les différentes stratégies. Et ce qu'on a trouvé, c'est que même chez les jeunes adultes, on voit déjà des différences de volume à l'hippocampe dépendant des stratégies qu'on va utiliser quand on va se déplacer dans la vie de tous les jours.
Et ça, c'est la mémoire spatiale.
Exactement. Donc, la mémoire spatiale nous aide, c'est un bon modèle qui nous aide à aller chercher la fonction de ces deux différentes parties du cerveau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans un cas, quand on utilise la mémoire spatiale qui dépend de l'hippocampe, on va utiliser des points de repère dans l'environnement. On va connaître les relations entre les points de repère. Ça veut dire que je peux me déplacer avec ce qu'on peut appeler le GPS interne, c'est-à-dire un sens d'orientation interne à nous qui fait qu'on sait dans quelle direction il faut aller si, par exemple, on avait notre chemin habituel complètement barré. Donc, il faut être capable de dissocier ce genre de stratégie-là donc de mémoire spatiale qui dépend de l'hippocampe, d'une autre stratégie qui ne dépend pas de l'hippocampe, qu'on appelle de réponse par stimuli. Mm-hmm. On va trouver des stimuli dans notre environnement et on sait que quand on voit, par exemple, la station d'essence, il faut tourner à droite. Quand on va être au bout de la rue, on sait qu'on veut tourner à gauche. Et puis, à une certaine lumière où il y a peut-être un certain dépanneur, on va tourner à droite. Mais on ne connaît pas nécessairement la relation entre les différents points de repère. Donc, je vous ai mentionné plusieurs points de repère, mais on ne serait pas capable de faire un plan vu de haut qui serait en proportion, par exemple. Alors qu'avec une carte cognitive qui implique connaître la relation entre les points de repère, mais on est capable de faire ce plan vu de haut. Donc, ce qui se passe avec la mémoire spatiale versus la mémoire de réponse par stimuli, c'est qu'on peut les dissocier facilement. Je vais vous expliquer comment on fait ça dans le laboratoire. On va amener des sujets à faire un test où on leur demande de mémoriser l'emplacement d'objets. Mm-hmm. Et ils ont des points de repère qu'ils peuvent utiliser. Après avoir appris le test, on enlève les points de repère. Et on peut voir qu'il y a certaines personnes qui se déplacent parfaitement bien sans les points de repère.
Donc, ils vont savoir où était le crayon, où était la tasse, par exemple.
Exactement.
OK. Et exactement. D'autres, ils n'auront pas de souvenirs.
En fait, dans mon test, ils vont faire des gauches-droites. Ils vont savoir qu'à partir d'ici, il faut que j'aille tout droit. Puis au coin, je vais tourner à droite. Après ça, je vais sauter deux chemins et je vais passer à l'autre à gauche.
Oui.
Et en faisant ça, ils sont capables de trouver tous les objets dans l'environnement sans faire d'erreur. Et là, comme ça, on peut dissocier les différentes stratégies. Et c'est là que toute notre recherche a commencé à révéler des choses vraiment excitantes. C'est-à-dire que même chez les jeunes adultes, on trouve que les deux différentes stratégies impliquent une fonction des deux différentes parties du cerveau, mais pire ou ce qui est mieux, dépendant de sa perspective, c'est qu'on va avoir la matière grise de l'hippocampe et des noyaux codés qui vont refléter justement l'utilisation des deux stratégies.
Mmh. Et je m'intéresse un petit peu à l'impact que ça peut avoir dans notre quotidien, Dr. Bobotte. Par exemple, je sais exactement le trajet que je dois prendre pour aller au boulot. Je fais toujours le même. Je le sais par cœur. Est-ce qu'une stratégie qui pourrait être efficace pour préserver ma mémoire serait d'utiliser un nouveau trajet pour aller au boulot?
Bon, alors c'est une excellente question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on répète la même chose encore et encore, ça devient une habitude, ça ne dépend plus de l'hippocampe. Un exemple, quand c'est une habitude, c'est un jour où on ne va pas au boulot et on se retrouve à prendre le même chemin pour aller au travail et même on prend la mauvaise sortie alors qu'on n'avait pas planifié de prendre cette sortie-là quand on était sur la route. Donc, là, c'est vraiment une preuve que le système d'habitude a pris le dessus. Alors, c'est quelque chose qui va être efficace dans un certain contexte,
oui.
C'est-à-dire la journée qu'on va au travail, on fait ça vite, 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 sans réfléchir. On n'a pas besoin de planifier, de prendre des décisions. Donc, ça peut être efficace dans ce contexte. Mais si on sort du contexte d'aller au travail, c'est quelque chose qui devient vraiment pas efficace puisque là, on a pris la mauvaise sortie, on s'est perdu, etc.
Oui.
Donc, dépendant du contexte, on va avoir une stratégie qui va être plus efficace que l'autre. Donc, quand on a quelque chose de répété, on va utiliser plus les noyaux codés et c'est efficace, c'est rapide, on fait moins d'erreurs. Mais quand on sort de nos habitudes, ben là, c'est pas efficace du tout de prendre la sortie pour le travail ou prendre la sortie qu'on a l'habitude de prendre.
Mm-hmm.
Et pour répondre à la question, dans tous les cas, quand on travaille le système d'habitude, ben on travaille pas l'hippocampe.
Mais ouais,
donc,
voilà.
On arrête de stimuler l'hippocampe. Mmh. Et donc, pour répondre à votre question, prendre de nouveaux chemins, oui, c'est exactement ce qu'il faudrait faire si on veut vraiment essayer de travailler l'hippocampe. Mais il faut accepter que dans notre société, ça va prendre un peu plus de temps. On est une société qui a tendance à vouloir être toujours plus rapide, plus efficace, être à la course.
Oui. Mais...
En fait, j'ai quelque chose de drôle à vous raconter. Quand je donne des conférences publiques, souvent je demande à mes participants, à l'audience, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont contents quand ils se perdent? Et la plupart des gens rigolent comme vous. Alors, pourquoi je pose cette question? C'est parce que justement, si on veut stimuler notre hippocampe, il faut accepter que des fois, on va prendre des détours, on va prendre des mauvais chemins parce qu'on est en train maintenant de prendre quelque chose qui est de naviguer d'une façon qui est moins efficace.
Moins efficace, mais préférable pour la santé de notre mémoire.
Voilà. Ouais. C'est ça ce qu'il faut discerner. Parce que tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on pense que c'est bien d'avoir un meilleur score, une meilleure performance,
d'efficacité,
d'avoir pas stimulé l'hippocampe.
Ouais, donc apprendre et accepter, apprendre de nouveaux chemins, c'est assez sage, ça, Dr. Bobotte. Comment on explique que certaines personnes ont une meilleure mémoire que d'autres?
Ben voilà, donc ça dépend du contexte.
Uh-huh.
Alors, si on prend quelque chose qui est répété, il y a certaines personnes qui vont acquérir la répétition beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc, ils vont paraître comme s'ils ont une meilleure mémoire, mais ça peut être parce qu'ils ont des noyaux codés plus développés. Et ça va être juste dans ce contexte très limité. Ça ne va pas s'étendre dans d'autres domaines.
Mmh.
Alors que si quelqu'un développe des relations, ça va prendre plus de temps. Donc, le temps d'apprentissage va peut-être être un peu plus long. Mais à long terme, cette personne-là va avoir acquis l'équivalent d'une carte cognitive dans d'autres domaines qui va être beaucoup plus puissante pour justement trouver des raccourcis dans notre environnement ou trouver des raccourcis ou être créatif à trouver des solutions peut-être dans d'autres contextes.
Mm-hmm.
Vous comprenez? Donc, ça dépend du contexte. Et on a tendance à juger très facilement qu'un score meilleur, c'est mieux, etc. Mais ça dépend de comment est-ce qu'on le mesure.
C'est fascinant de vous parler. J'aurais encore tellement de questions, mais le temps file et je veux bien sûr aborder avec vous cette recherche qui vient récemment de sortir de votre équipe et d'une autre équipe aussi. Bon, à savoir, les jeux vidéo, oui, ils auraient des effets positifs sur l'attention, mais ne protégeraient pas nécessairement de troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer.
Oui, c'est un article qui vient de sortir. Ce qu'on a trouvé, c'est exactement ça, c'est que les gens qui jouent des jeux vidéo spécifiques, hein, on parle des jeux de tir à la première personne qu'on nomme des jeux d'action.
Mm-hmm.
Alors, les jeux vidéo d'action sont des jeux que certaines personnes jouent. On a après ça mesuré les stratégies dont on a parlé chez ces personnes-là. Et ce qu'on a trouvé, c'est que 80% des gens qui jouaient les jeux vidéo d'action utilisait la stratégie qui dépend des noyaux codés. Et ça, cette stratégie-là, donc de réponse par stimuli, mm-hmm. est à tort pour l'hippocampe. Ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement travailler leur hippocampe.
Ouais, okay.
Et on a 4 autres études publiées qui montrent que cette stratégie-là, qui dépend, donc, qu'on appelle de réponse par stimuli, implique une diminution de l'activité de l'hippocampe et une diminution de la matière grise à l'hippocampe.
Donc, ça fait un lien vraiment avec tout ce que l'on raconte depuis tantôt. Hein?
Exactement.
Ah, bon, alors, on va guider, bien sûr, nos auditeurs vers cette étude-là. Ils pourront en savoir plus sur votre travail. À vous, www.douglas.qc.ca. On pourra trouver tout ce que vous mijotez dans votre labo avec votre équipe. Dr. Véronique Bobotte, je rappelle, vous êtes neuroscientifique, chercheuse à l'Institut Douglas et professeure à l'Université McGill et l'Institut de recherche Douglas. C'était très intéressant de vous parler.
Merci beaucoup. Et j'ai aussi un site web d'information pour le public qui s'appelle vebosolutions.com si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations spécifiquement sur ce dont on a parlé aujourd'hui.
Ah ben, on le glissera également sur le site du Canal M.
Excellent. Merci
au revoir.
Beaucoup. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Jean-François Pinsonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller au service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal, initiateur de ce programme, de ce plan d'initiative Montréal physiquement active. Et j'ai tout juste en face de moi Claudine Labelle, co-porte-parole de Montréal Bouge, fondatrice et présidente de Filles Actives. Bonjour.
Bonjour.
Souvent, on se le dit, hein, il suffit de multiplier les occasions d'être actif au quotidien au lieu de les éviter, mais souvent notre nature nous amène à esquiver les activités physiques, esquiver de bouger un petit peu, parce que ça demande des efforts. Et c'est un petit peu le but avec Montréal physiquement active et Montréal bouge, de dire aux Montréalais, aux Montréalaises, il n'y en a plus d'excuses pour bouger.
Bah, effectivement, Montréal bouge et découle d'un plan d'action régional qui s'appelle Montréal physiquement active. Et ce plan-là est un peu un vaste plan d'action élaboré avec plusieurs partenaires. Et c'est à l'image un peu de plusieurs grandes villes nord-américaines que Montréal s'est doté de ce plan d'action-là régional qui s'appelle Montréal physiquement active. Et le but essentiel, c'est de mettre en place des environnements plus favorables pour, tant sur le plan physique, socio-culturel, politique et économique, pour inciter les résidents de Montréal ou les gens se déplaçant sur l'île de Montréal à devenir et à rester physiquement actifs.
Mm-hmm. Tout à l'heure, je le disais en introduction, 48 % des Québécois de 12 ans et plus ne sont pas suffisamment actifs. Chez les jeunes, les adolescents, c'est 94 % je crois. Vous, Claudine Labelle, qui êtes à la tête de Filles Actives, c'est bien sûr, j'imagine, un constat que vous avez observé au Québec, ben, peut-être ailleurs aussi, mais là, on s'intéresse à ce qui se passe ici, on n'est pas suffisamment actifs.
Mais en fait, c'est un enjeu majeur. Nous, on le voit surtout du point de vue des adolescentes. 96 % des ados, filles, ne rencontrent pas les standards d'activité physique quotidienne. C'est très, très peu. Donc, on doit mettre des mesures en place, justement, qui vont les interpeller, qui vont les appeler à bouger, une programmation diversifiée qui vont interpeller leurs intérêts aussi. Donc, c'est ce qu'on a décidé de mettre sur pied.
Mm-hmm. Jean-François Pinsonneau, avec Montréal physiquement actif, concrètement, comment ça se passe pour les Montréalais, les Montréalaises?
Ben, le plan d'action s'articule au niveau de 4 grands axes. Hein, on veut essayer, avec nos partenaires qui sont nombreux sur l'île de Montréal, faire des actions pour améliorer l'aménagement urbain, faire en sorte que ce soit plus attrayant et plus favorable, offrir une meilleure accessibilité aux déplacements actifs, ça veut dire les transports actifs et collectifs, puis également tout ce qui est le plein air urbain. Vous savez, la ville, sur les territoires de la ville de Montréal, on peut offrir un vaste lieu de place pour bouger, et on pense à tous nos parcs et espaces verts. Et donc, je pense que c'est important de se réapproprier ces lieux-là pour être le plus régulièrement possible, être actif. Alors, il faut également valoriser la pratique sportive et finalement, peut-être faire un meilleur travail sur le plan de la promotion en faveur d'un mode de vie physiquement actif.
Oui, parce que ça peut être tout simple, hein? C'est aller promener le chien, aller prendre une marche après le souper, aller jouer avec les enfants au parc. Tout ça peut s'inscrire dans notre routine au jour le jour. Toutefois, c'est ça, si les environnements ne sont pas favorables pour le faire, évidemment, parfois, c'est plus aisé de rester sur notre sofa à regarder la télévision. Qui sont vos partenaires, Jean-François Pinsonneau?
On est nombreux. On est plus de 60 organismes du milieu montréalais qui se sont regroupés ensemble. On pense à notamment Défi sportif Altergo, Société de sauvetage. Et évidemment, on a la chance d'avoir avec nous cette année Filles Actives qui s'est joint également au groupe. Je pense qu'en unissant nos efforts, on est convaincus qu'on est en mesure de peut-être atteindre les objectifs qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, soit de réduire de 10 % la sédentarité de la population de l'île de Montréal.
Oui, c'est énorme, 10 % Jean-François Pinsonneau. Claudine Labelle, je reviens avec cette initiative Montréal bouge. C'était pendant tout le mois de mai. Évidemment, le mois de mai s'achève, mais on voulait tout de même en parler. C'est une belle initiative, plutôt récente, je crois.
Bien oui, tout à fait. C'est la deuxième année cette année. Ce qui nous intéresse énormément, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'organismes qui sont intéressés justement par le besoin de bouger, de faire bouger les Montréalais. Et tous ensemble, on a décidé de s'unir, de se mobiliser puis de dire, on va faire bouger les gens. Et des initiatives au mois de mai, dans le cadre de l'activité physique, On en a et on en a des belles. Il y a plus de 17 grands rendez-vous qui ont été officialisés pendant le mois de mai à travers l'île de Montréal, ce qui est extraordinaire, mais d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des activités qui sont très diversifiées, donc qui peuvent interpeller tout le monde, tant au niveau des jeunes que des moins jeunes. Et il y a plusieurs événements également qui sont ouverts au grand public.
Oui, et en plus, et ça, ça me plaît particulièrement, ce mois de mai, Montréal Bouge débutait avec le défi sportif Altergo qui s'intéresse à des jeunes qui vivent avec différentes limitations fonctionnelles. Donc, on s'intéresse aussi à des gens qui ont peut-être des défis particuliers, mais on veut tout de même les faire bouger et on considère l'importance de faire bouger quand même ces gens-là.
Exactement, parce qu'on réalise, je pense, en bout de ligne, que tout un chacun a tout intérêt à bouger et on a tous des défis tout à fait différents d'un créneau à l'autre de la population et on doit répondre à ces besoins-là.
Jean-François Pinsonneau, j'imagine aussi que c'est votre interpellation, à savoir, oui, les gens qui vivent avec différentes limitations, les personnes âgées aussi, vous tentez de joindre cette clientèle?
On essaie de rejoindre, comme Claudine le mentionne, tout un éventail le plus large possible de notre population pour les inciter à s'unir avec nous dans l'activité Montréal Bouge. Dans le fond, c'est un magnifique portail pour inciter les gens à bouger. La promotion Montréal Bouge, c'est une version un peu bonifiée de ce qui existait avant autour de la Journée nationale du sport et de l'activité physique, une journée qui était organisée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, à laquelle la ville participait déjà depuis sa création, soit une dizaine d'années. Alors, c'était le premier jeudi de chaque mois. Alors, l'objectif, c'était de sensibiliser les citoyens à l'importance d'une vie active. Maintenant, pour Montréal, ça s'exprime plus facilement à l'intérieur d'un mois continuel, parce qu'on ne peut pas rassembler toutes nos actions sur une île aussi importante que Montréal sur ce plan-là. Et je pense qu'il fallait peut-être avoir un temps le plus large possible pour inviter les gens à bouger.
Oui. Claudine, le temps file, il reste quelques secondes. On invite les Montréalais à bouger pour les deux derniers jours du mois de mai. Porte ouverte au nouveau stade de soccer, 30 mai.
On bouge dans nos parcs également, qui va avoir lieu dans plusieurs parcs. On parle des 21 parcs de la ville de Montréal.
Et également le tour de l'île, 31 mai.
Exactement.
ça, c'est un très, très beau rendez-vous auquel vous nous conviez. Jean-François Pinsonneau, Claudine Labelle, merci beaucoup pour ces très, très belles initiatives. On glissera tous les liens Filles Actives, Montréal Physiquement Active et Montréal Bouge sur le site du Canal M.
Merci, c'est un grand plaisir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bon week-end. Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Profitez du week-end pour bouger un peu, ça fait du bien. Et on se retrouve lundi. Bye bye.